Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Excessif.
Le prof Patrick.
Et bonjour prof Patrick.
Les auditeurs.
De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui avec vous ?
Eh bien, pour mon grand retour au mois de janvier de l'année 2023, tu te doutes bien, Mathieu, qu'il y avait un sujet que je n'allais pas rater quand même, parce qu'il est quand même dans toutes les conversations, c'est la réforme des retraites de M. Macron.
Très bien. Bon, c'est très bien.
On le fait en deux parties. Hein. En une partie, ça va être un peu court.
Ok. Par quoi on commence ?
Par la première partie. c'est toujours mieux.
J'aurais dû m'en douter.
Bon, il s'agit de repousser l'âge légal du départ à la retraite de 62 à 64 ans. Ce qu'on va faire pour commencer, en fait, c'est qu'on va écouter quelqu'un qui, par avance, puisque c'était en 2019, s'était fortement opposé à l'idée de repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Est-ce que tu as notre extrait, Mathieu ?
Oui, bien entendu.
Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Et pourquoi ? Parce qu'on a dit, on laisse 62 ans comme âge légal, parce qu'on fait une réforme beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, qui est de créer ce nouveau système par points, qui va remettre de la confiance, qui va permettre de corriger les vraies injustices du système, qui sont les régimes spéciaux, les avantages particuliers de telle ou telle catégorie, qui sont parfois très coûteuses et qui sont aujourd'hui des vraies inégalités qu'on ne sait plus justifier. Et ça, c'est beaucoup plus profond, plus ambitieux, il ne faut pas le compromettre en bougeant l'âge légal. Et la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire, non, faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite.
Bon, chers auditeurs, vous avez entendu, je pense que vous avez reconnu M. Macron, hein, bien sûr, c'était en 2019. Bon, à l'époque, il voulait vendre sa réforme des retraites par points. Bon, ça lui a pété la figure. Et donc, alors qu'est-ce qu'il avait comme argument pour dire non, c'est pas bien, 62-64 ans, oui, le chômage quand même. Hein, tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage, c'est illusoire. Alors bon, c'est vrai que le chômage est au plus bas, hein, Mathieu, on le sait, 7% en France, c'est pas mal. Ouais. Grâce aux bonnes vieilles méthodes éprouvées qu'on avait analysées dans une chronique du 25 mars 2022, chers auditeurs, allez dans le podcast, remontez au 25 mars 2022, une chronique consacrée au bilan économique du premier quinquennat Macron. C'est les recettes néolibérales classiques, bon bref, je ne reviens pas dessus, mais c'est quand même 7%, hein. C'est pas 3 ou 4%, le plein emploi c'est l'équivalent de 3%, donc on n'y est pas encore. Et puis côté fatigue de travailler après 60 ans, puisqu'il évoque ça, bon ben, discutez autour de vous les jeunes gens, enfin, chers auditeurs et vous verrez que rien n'est réglé. En fait, les gens qui s'approchent de la soixantaine, cette histoire de fatigue, ils la ressentent en quelque sorte. Bref, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein, c'est comme ça, on va dire ça. Allez, on va commencer à rentrer dans le dur du sujet par un petit rappel historique, c'est pas plus mal. Hein. La retraite à la française, c'est basé sur un système de répartition. En gros, on a le choix entre le, entre guillemets, démerdez-vous par vous-même des anglo-saxons, et ça, on appelle ça la retraite par capitalisation. C'est une solution où chacun épargne pour ses vieux jours, et tant pis pour les bas revenus qui n'ont pas les moyens de cotiser suffisamment pour leurs vieux jours. C'est le modèle américain classique. Ou alors, deuxième choix, on peut choisir un système de solidarité entre les gens qui travaillent, les actifs, et les gens à la retraite. Les actifs payent des cotisations pour permettre de financer les pensions des retraités au même moment, à l'instant T. Et ça, c'est notre système par répartition. Il a démarré donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en même temps que l'instauration des sécurités sociales, et la retraite était fixée à l'époque à 65 ans. Elle est passée à 60 ans sous Mitterrand au début des années 80. Et puis, à partir du début des années 90, eh bien, les décideurs politiques vont commencer à prendre en compte les évolutions démographiques profondes de notre pays. C'est-à-dire qu'on a fini une période où on avait le baby-boom et donc des actifs sur le marché du travail énormes, donc une grande quantité d'actifs pour un nombre plus faible de retraités. Ouais. Et petit à petit, ce rapport va s'inverser et cette tendance continue, hein, perdure encore. Et donc, il s'agit de s'adapter à une situation où il y a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités. Il va s'agir donc de modifier notre système de retraite à cette époque-là. La première réforme, ça sera celle d'Édouard Balladur en 1993. La durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein va passer de 37,5 années à 40 années. Et le niveau de la pension de retraite ne sera plus calculé sur les 10 meilleures années, mais les 25 meilleures années. Ça va être les deux éléments clés de la réforme de Balladur en 93. Je saute certaines réformes, hein. Je passe un peu vite. En 2010, l'âge de départ à la retraite passe à 62 ans. Sous Sarkozy. Et en 2014, la réforme Touraine, de Madame Touraine, ministre de je ne sais plus quoi à l'époque, du travail, je présume, sous Flamby, là, comment il s'appelait, François Hollande, voilà. Cette réforme Touraine impose des évolutions suivantes. La durée de cotisation passe de 40 à 41 ans et 6 mois pour les personnes nées entre 55 et 57. Et cette durée va augmenter progressivement pour atteindre 43 ans pour les personnes nées après 1973. C'est cette réforme qui est en vigueur actuellement, hein. Et elle a aussi créé, cette réforme, le compte personnel de pénibilité qui a été modifié sous Macron, qui est censé prendre en compte pour le calcul des droits à la retraite, eh bien, la réduction de l'espérance de vie qui résulte d'une vie professionnelle un peu exposée à des facteurs de pénibilité. Bon, cet aspect ne fait pas consensus, ça fait l'objet de critiques sérieuses. Je mettrai en lien deux articles qui parlent un peu des critiques de cet aspect-là de la réforme Touraine. Et on en est là à ce jour. Voilà, on est sous ce régime de la réforme Touraine. Donc la question qui vient, c'est évidemment, pourquoi une nouvelle réforme ? Est-ce qu'il y a eu un bouleversement des événements par rapport aux évolutions qu'anticipait la réforme Touraine en 2014 ? Bon, évidemment, il y a eu des événements, hein. Il y a eu le Covid, il y a la guerre en Ukraine, pourquoi pas. Mais, en fait, au niveau de l'impact financier, il y a toujours un impact financier de ce type d'événement avec un effondrement économique. Ce choc, il est déjà quasiment absorbé. Donc, ce n'est pas ça le problème, hein. La démographie, elle continue d'évoluer comme prévu. Il n'y a pas de changement par rapport aux prévisions sur lesquelles s'était basée la réforme de 2014. Donc, ce n'est pas ça non plus. Bah, pourtant, les éléments de langage du gouvernement... des Républicains, hein, le parti de droite qui est sur la même ligne, la même pensée que le gouvernement, et des syndicats patronaux, tous, ils nous chantent une mélodie d'un régime de retraite menacé par les déficits. On entend ça, hein. Lisez les Échos, vous avez ça à toutes les pages. Bon, alors ce qui est bien, Mathieu, c'est qu'en fait, ce débat, il n'est pas aussi confus qu'on pourrait le craindre. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, opposants et partisans de la réforme, ils prennent comme référence... le même organisme et les travaux d'un même organisme. Et cet organisme, c'est le Conseil d'orientation des retraites. C'est un organisme qui a été créé en 2000, qui a 39 membres, des parlementaires, des membres de la société civile, des experts de la question démographique et de la question des retraites, et des représentants des partenaires sociaux. Ce Conseil d'orientation des retraites travaille beaucoup, et chaque année, il sort un rapport. Et donc, ce rapport, c'est vraiment la Bible des opposants comme des partisans de la réforme. Donc, c'est bien. Je vous mettrai en lien la possibilité d'aller le télécharger, ce rapport. Le dernier date de septembre 2022.
D'accord.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que le régime devrait connaître une petite pointe de déficit entre 2028 et 2032, tout en ayant l'honnêteté de préciser, j'ouvre les guillemets, il s'agit là d'un artefact lié à la méthode de projection. Rien ne permet d'anticiper que la conjoncture économique sera particulièrement déprimée sur la période 2028-2032. Fermez les guillemets. En gros, bon, il y a une question statistique qui fait que ça crée une pointe de déficit, mais on n'est même pas sûr qu'elle aura lieu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après 2032, quelles que soient les hypothèses de croissance moyenne, parce qu'en fait, tout varie selon le taux de croissance moyenne de l'économie française, quelles que soient les hypothèses de la plus optimiste à la plus pessimiste, eh bien, le coût du système des retraites va, au pire, se stabiliser à 14,7% du PIB en 2070, c'est-à-dire quand même un poil au-dessus du niveau d'aujourd'hui, soit décroître pour atteindre, dans l'hypothèse la plus optimiste de taux de croissance, 12,1% du PIB en 2070, c'est-à-dire un peu mieux qu'aujourd'hui. Bon, donc tout ça, avec les effets, bien sûr, grâce aux effets de la réforme Touraine, tout ça, ça nous fait un système extrêmement stabilisé. Hein. D'accord ? Donc, réponse aux questions de départ, non, au vu de ces projections, qui sont les éléments sur lesquels tout le monde se réfère. Hein. Aucune menace sérieuse, en termes comptables, ne pèse sur notre système de retraite. Voilà. Donc, il va falloir chercher les raisons de cette réforme ailleurs.
C'est pourtant l'un des arguments qui ressort le plus souvent pour cette réforme.
Téléchargez le rapport du COR. Vous n'allez pas lire les 300 pages, hein, mais lisez juste la synthèse qui est au départ et vous verrez que c'est extrêmement clair.
Ouais.
Il n'y a pas 36 solutions. C'est assez simple. Pour une fois, on a un problème qui peut être compris par le grand public de façon assez simple. Hein. Il suffit d'aller télécharger ce rapport. Bon, alors, selon toi, c'est quoi la raison, alors, si ce n'est pas une raison comptable de cette réforme?
J'ai entendu dire qu'ils veulent faire comme tous les pays européens.
On va faire comme les copains. Ok, d'accord.
Je crois que c'est ça.
Encore un élément de langage, ok, pourquoi pas, on verra. Avant de répondre à cette question, en fait, je vais rajouter quelques petits éléments. Chers auditeurs, vous devez savoir que même sans cette réforme, les effets de la réforme précédente, la fameuse réforme Touraine de 2014, vont mécaniquement diminuer le niveau de vie des retraités. Attention, diminuer en valeur relative, hein, pas en valeur absolue, c'est-à-dire par rapport au niveau de vie moyen des Français. C'est dans le rapport du COR, encore une fois, hein, vous l'avez téléchargé, vous allez voir page 8, il y a un joli graphique qui montre ça. Si on met en perspective cette évolution, c'est-à-dire sur le long terme, on est sur un constat un peu étrange, au goût amer, je dirais. Mmh. C'est-à-dire qu'un des plus importants acquis du système de retraite par répartition français a été de quasiment faire disparaître la pauvreté des seniors. On a eu un niveau de vie moyen des retraités qui, en 1970, était de 70% du niveau de vie moyen des Français et qui a rejoint le niveau de vie moyen des Français en 1990, au milieu des années 90. Ben en fait, ce qui va se passer dès maintenant, c'est qu'on va avoir une sorte de retour en arrière avec une dégradation du niveau de vie moyen des retraités par rapport à la moyenne du niveau de vie moyen des Français. Déjà avec la réforme Touraine. Mmh. Donc avec la réforme Macron, ça va être encore pire. Donc un petit peu un goût amer, hein. C'est étrange quand même, surtout qu'on voit que les raisons comptables ne sont pas les bonnes. Donc, messieurs, dames, ce qu'on pourrait dire, c'est que les contraintes financières ne justifient pas que ça fasse un chemin obligé de mener cette réforme-là. Mmh. D'accord ? Donc ça s'appelle la raison, quelle qu'elle soit, c'est un choix politique. D'accord ? Et cette réforme, elle est due à des raisons politiques, à des choix politiques, hein, tout comme le fait de décider de faire diminuer le niveau de vie moyen des retraités. Eh bien, ce que je te propose, Mathieu, c'est qu'on en parle la semaine prochaine.
Non, ça commence à devenir croustillant. Le rendez-vous est donné. Merci beaucoup, prof Patrick. À très bientôt.
À plus.
Ensemble sur Calade.